Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Les vraies voix sur Sud Radio à 17h03 de l'actualité et des débats. Bienvenue à vous qui nous écoutez. Les vraies
c'est
voix.
C'est vraiment la fin de la saison.
C'est jusqu'à 19h. Oui, le casque, votre casque est cassé,
alors,
c'est ça.
Là, vraiment, bon, là, bah, excusez-moi de vous le dire.
Bon, on va vous l'échanger, on va vous l'échanger. Vous avez votre ticket de caisse ?
Excusez-moi, monsieur, j'ai une réclamation à faire.
On rembourse pas ici, on échange seulement.
Très bien.
Allez, Françoise Degoy, vous l'avez reconnue. Philippe Bilger est avec nous, magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole. Tout marche chez vous, Philippe ? Tout va bien ?
Tout va bien. Bon. J'attends avec impatience les échanges avec Françoise et Abdoulaye.
Ça arrive. Voilà,
je sens qu'on va être tous d'accord sur une chose, Philippe Bilger.
Vous avez dit son nom.
Sur l'Italie.
Alors, attendez avant de chanter, on va y venir à la victoire de l'Italie. Françoise Degoy est avec nous. Abdoulaye Kanté, je le disais, le policier Abdoulaye Kanté.
Bonjour à tous.
Très élégant, Abdoulaye.
Moi, je l'aime, mais pour ceux qui l'aimeraient moins, alors là.
Si vous le suivez sur les réseaux sociaux, il y a quelques photos qui tournent. Vous êtes très élégant, Abdoulaye Kanté.
Merci.
Vous avez beaucoup de costumes.
Je pense que Abdoulaye devrait être. Non, mais si Gérald Darmanin fait quelque chose. Non, mais il en fait un porte-parole du ministère de l'Intérieur. Écoute, c'est la classe absolue. C'est la moitié des problèmes réglés, je pense.
Monsieur le ministre, si vous nous entendez.
Bah écoutez.
Gérald, si tu nous entends.
Moi, Gérald Darmanin m'a répondu une fois sur WhatsApp. Il a fait une petite story. Je lui ai dit très bon choix musical, monsieur le ministre. Il m'a répondu. C'était la seule fois il m'a répondu.
Très bien.
Si vous avez des messages à faire passer, dites-le-moi, Abdoulaye Kanté.
Le message républicain, c'est tout.
Par exemple. Allez, voici
ça, c'est pas mal par les temps qui courent.
Voici le programme des vraies voix ce soir. Tout d'abord, notre grand débat à 18h30. Le pass sanitaire étendu. Donc, le gouvernement y réfléchit. C'est sur la table. Hein. Réserver aux seuls vaccinés l'accès à certains commerces ou loisirs. C'est ce que fait d'ailleurs l'Irlande. Hein. Et pas que. Le Danemark, l'Autriche, bientôt la Grèce. Faut-il interdire certains lieux aux non vaccinés ? J'attends vos réactions. 0826 300 300. À 18h, nous accueillerons Nathalie Elimas, secrétaire d'État auprès de Jean-Michel Blanquer. On reviendra avec la ministre sur les résultats du bac, l'énorme bug qu'il y a eu, et puis les discussions autour de la vaccination obligatoire des enseignants. Pour le moment, Jean-Michel Blanquer a dit que ce n'était pas d'actualité. La ministre Nathalie Elimas qui nous rejoindra dans la deuxième heure des Vraies Voix. Et puis, évidemment, au programme des Vraies Voix, l'arrivée du Tour de France, l'ascension par deux fois du Mont Ventoux, et donc l'arrivée dans les prochaines minutes à suivre en direct sur Sud Radio avec notre consultant, l'ancien coureur Vincent Barthaud. Voici tout de suite le tour de table de l'actu.
Les vraies voix Sud Radio.
Et oui, la joie hier en Italie après la qualification au tir au but de la Squadra, l'Italie qui s'est fait peur. Tiens, les cris de joie que vous avez entendus sont des cris de joie qui sont déroulés en Italie, évidemment, plus précisément à Rome, pas très loin du domicile de Françoise Degoy, d'ailleurs.
C'est vrai,
à Rome,
c'est ça, mes amis qui filmaient de ma terrasse. Hein, vous entendez, c'était un concert sans discontinuer de une heure de klaxon, c'est merveilleux.
Alors, vous vouliez revenir, Françoise, sur la victoire
d'abord
de
l'Italie. D'abord sur cette hymne, parce que j'ai lu un très joli tweet de Philippe Bilger qui disait que c'est magnifique. C'est vrai que voir les Italiens hurler, d'ailleurs le rythme, ils le chantent pas, ils le hurlent, c'est très beau. Mais en fait, parce que cette hymne est très beau, hymne, il dit nous avons toujours été méprisés, piétinés, parce que nous étions divisés, maintenant nous sommes une nation. Vous savez, c'est après Garibaldi. Nous sommes une nation, donc nous sommes les frères d'Italie. Donc c'est pour ça que cette idée d'avoir été toujours méprisée, piétinée comme une nation du Sud, en réalité, voilà pourquoi il le chante. Et puis très beau, parce que dominer n'est pas joué, n'est pas gagné.
Bah, ils n'ont pas dominé hier,
et
les Italiens.
Ils étaient même en dessous. Mais ils se sont fait manger absolument partout. Mais ils ont gagné sur la détermination finale.
C'est ça.
Voilà, et j'ai trouvé ça très beau. Grande leçon politique. Demain, d'ailleurs, dans l'édito de la matinale, je ferai euro-présidentiel, même combat. Je vous invite à écouter.
Ouais. Et alors, il y a une scène, une très très belle scène qu'on a vue hier, un petit peu avant les tirs au but, les deux goals, les deux gardiens de but quand même.
S'embrassent.
Qui s'embrassent, qui s'enlacent, qui on s'encourage. Hein,
c'est ce
qu'ils
disent, en fait. On voit même un des
joueurs, Chiellini, qui se chambre
avec Jordi Alba,
sur une séance de pénalty qui
c'est incroyable.
Qui est décisif pour les gens.
Et vous avez vu Chiesa aussi en train de rigoler avec Luis Enrique.
Chiesa, lui, c'est un des coups de cœur de cet euro qui, franchement, qui est sur les traces.
Vous avez vu, en plus, comment il rend hommage à Ciro Immobile qui est en grande difficulté en disant la moitié de mon but, c'est pour Ciro. Non, c'est incroyable.
Philippe Bilger, vous disiez à l'instant c'est normal, mais ça fait du bien quand même de voir ce genre d'image. On le voit pas
non,
beaucoup.
Mais,
hein.
Non, mais en dehors même de ce match, on a toujours vu au moment des tirs au but, les Gaules être aimables l'un à l'égard de l'autre. Mais il y a eu un double paradoxe hier, je trouve, c'est que même lorsque l'Italie n'a pas de talent, elle a un talent relatif, disons, elle a de la chance. Et bon, elle ouais. est formidable.
Ça change du football qu'on a connu.
Et l'autre paradoxe, mais... c'est que l'Espagne n'a jamais mieux joué qu'hier. Et donc, c'est vraiment extraordinaire. Alors, Françoise, j'aimerais non pas vouloir pousser un avantage. Comment expliquez-vous que les Italiens aient cette manière absolument enthousiasmante de chanter leur air, leur hymne, et que les Français le chantent très mal?
Je
ou
sais
pratiquement pas.
Vous savez ce que disait Jean Cocteau, hein, les Italiens, c'est des Français de bonne humeur. Je trouve que c'est quand même, ça résume peut-être bien.
Ils sont plus extravertis.
Je c'est pense ça. Que je crois pas que c'est une question de nationalisme ou de patriotisme.
Vous ne croyez pas que c'est un rapport à la patrie ?
Non, parce que ce pays, dans la réalité, il est terriblement divisé. Il est vraiment coupé en deux. En dessous de Rome, ça devient vraiment la pauvreté, Naples, etc. Il est encore... cette fracture nord-sud, elle existe profondément tous les jours. Vous la vivez tous les jours, en fait, en Italie. Vous la vivez en termes d'équipement. Aujourd'hui, quand le monde entier vient se faire soigner à Milan, parce que Milan, c'est des hôpitaux aussi merveilleux d'ailleurs qu'en Allemagne ou en France, mais par contre le monde entier n'ira pas se faire soigner à Naples ou à Palerme. Et je veux dire par là que cette fracture existe, et la nationale elle s'appelle comme ça, non pas par fascisme comme j'ai pu le lire. Je me suis fait traiter de fasciste, moi, comme si j'étais italienne en plus, sur le Twitter, oui, votre fascisme. Non, la nationale, c'est un des seuls moments où cette Italie-là, elle arrive à se réunir, parce que dans les faits, dans la vie quotidienne, elle est vraiment coupée vraiment en deux. Et ça ne se résorbe
juste pour parler en fait par rapport à l'hymne, parce que moi j'aime les hymnes en fait nationaux, et ça j'adore ça, parce que en fait quand je vois l'Italie quand ils chantent cet hymne, et qu'on sent que quand ils sont prennent dans les bras, ils se serrent vraiment au niveau des épaules, on sent cette ferveur. Pour répondre à Philippe, cette ferveur, elle vient parce qu'ils sont imprégnés par ce patriotisme, par cet amour du maillot, par cet amour de ce sport, de cet enjeu qui est là. Et c'est ça en fait, pour venir peut-être à notre équipe de France ou même à cette France, ceux qui ne chantent pas la Marseillaise et tout ça, moi, vous savez, moi, je suis un enfant de la République. Et quand j'étais dans la Marine nationale, et même quand je suis face à l'hymne national, j'ai mes filles qui devant la télé, qui disent « Papa, non, je veux qu'on fasse comme les joueurs de l'équipe de France,
qu'on chante.
» Et si, en France, on pouvait avoir... franchement, j'envie les Italiens, par rapport à cette ferveur, parce que moi, quand j'ai des frissons, quand je vois quand ils chantent la télé italienne, je me dis « Ah oui, quand même, eh ben, il faut qu'on ait la même chose en France. Il faut qu'on ait ça aussi. »
Mais parce qu'on est peut-être des enfants gâtés, nous. Ce que je veux dire par là, c'est que probablement c'est que la situation que nous connaissons...
Et tu parlais de fracture,
tu vois,
et je pense que cette fracture
temps,
aussi, on l'a aussi ici.
Non, mais je crois pas. Je pense que justement, de fait, la fracture en France, les fractures sont pas si profondes qu'elles peuvent l'être en Italie. Voilà. Et moi, je trouve ça... France 98, l'équipe de France de 98, elle chante à tue-tête parce qu'elle est habitée aussi par autre chose. Voilà, moi je
elle chantait plus, Philippe, elle chantait un peu plus que les joueurs d'aujourd'hui.
Ça n'a rien à voir avec tout ce vers quoi vous nous entraînez sur Benzema, tout ça. Je pense que c'est pas vrai.
Philippe Bilger, on est moins patriote cette génération là. On est beaucoup moins patriote.
On est plus enfant gâté.
Je pense par exemple le fait que Platini ne chantait pas l'hymne, ça n'avait pas du tout la même importance qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans un même climat. Il me semble qu'on daignait moins l'idée de nation, que c'était plus évident. Mais je le dis avec modestie, Françoise, je constate simplement que l'Italie est formidable le chant clairement. Qu'elle offre avant de l'être sur le terrain.
Parce que c'est un pays, on oublie toujours, on pense toujours qu'on arrive dans le tiers-monde, c'est la troisième zone économique de l'Europe, l'Italie. Oui, mais les gens ont tendance à dire « Oh là là, les Italiens égale la mafia, égale des branleurs », alors que ça n'est pas vrai. Pense qu'il y a un cliché sur les Italiens, et les Italiens, c'est leur manière de dire « Mais regardez qui nous sommes !» Et surtout, à travers la nationale, et non, parce qu'elle n'existe pas au quotidien. Vous savez, les fractures entre le Nord et le Sud sont terribles, moindres détails. Vous voyez, quand les Milanais arrivent en Sardaigne, c'est merde, les Milanais débarquent, quoi. Il y a une façon entre l'Italie du Nord et du Sud de se comporter mutuellement.
C'est toujours vrai.
Ah, c'est vrai, je vous assure. Moi, tous les étés, je vais en Sardaigne. C'est toujours la même histoire.
Ce qu'il y a de bien avec l'Italie.
Alors que la nationale, elle fait le creuset de tout ça. Et d'ailleurs, vous avez vu, moi, j'adore Barella parce que je l'ai découvert à Cagliari, jouant à Cagliari. Bon, mais Barella, ça devient le petit Sarde qui marque, vous voyez. Après, c'est le Napolitain. Il signe et c'est les Napolitains immobiliers. Vous avez la composition en plus de l'équipe italienne.
Chaque joueur,
tient,
en fait, a un peu sa région. En fait,
compte
dédié, quoi.
Vraiment de l'ensemble de
non, et puis ce qui est bien avec l'Italie, c'est qu'ils ont, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, un slogan Forza Italia. Ils disent tout ça en Italie. C'est comme si nous, on disait un peu Vive la France, finalement.
Non, nous, on dit Allez les Bleus, mais bon, c'est
allez
moins
Allez les Bleus, c'est moins patriote.
Enfin, ils disent Forza Nazionale, parce que Forza Italia, c'est Berlusconi qui l'a détourné. Juste, je dis
ça. Mais voilà, ce matin, en tout cas, ils disaient tout ça, ils chantaient tout ça. Et je me suis dit, nous, en France, ce serait peut-être l'équivalent de Vive la France si on chantait tout ça.
Et il faut le dire, il faut qu'on se sente patriote.
Je pense, mais je suis peut-être que je rejoins Philippe Bilger là-dessus, peut-être avec un brin de nostalgie. Mon sentiment, quand même, c'est que cette équipe d'Italie, elle me fait penser en fait à France 98. Vous voyez ce que je veux dire, Philippe ? Dans le cœur, dans quelque chose qu'il y avait. C'est des grands joueurs, mais c'est pas des stars. Vous voyez ce que je veux dire ?
J'en remarquais dans certains quotidiens comme Tutto Sport et la Gazzetta dello Sport, qui expliquaient qu'ils mettaient en une la photo de tous les joueurs unis et que c'était vraiment c'est vraiment que toute l'Italie était réunie derrière son équipe et c'était ça qui était vraiment impressionnant. Quoi. Bon. C'était pas des individualités.
Pour finir la finale, avant de revenir avec Alexandre Priam à 18h45, notre journaliste sportif, la finale, ce sera quoi ? Italie-Danemark, Italie-Angleterre, Françoise.
Mon sentiment, alors après je laisse les deux spécialistes parce qu'ils sont plus forts que moi. Moi je suis qu'à l'intuition, mais
l'intuition féminine.
Tout cas j'ai donné l'Italie depuis le début, mais plus par goût que par analyse. Il faut quand même être honnête. Ouais. Moi je pense que c'est magnifique la charnière Harry Kane, Sterling. La charnière c'est au rugby, mais c'est superbe le football anglais est magnifique, mais quand même, est-ce que le Danemark n'a pas un supplément d'âme? Moi, je dirais plutôt Italie-Danemark au tir au but ce soir.
Philippe Bilger, Italie-Danemark, Italie-Angleterre.
Je rêverais que le Danemark gagne, mais je crains que ce soit l'Angleterre.
Je
crains non. J'aime beaucoup l'Angleterre aussi, entendons-nous, mais je préférerais le Danemark.
Ouais, Abdoulaye Baraï, on en parlait.
Disons que j'aimerais bien, l'Italie ira au bout, pour moi, elle ira au bout, mais après, à savoir le deuxième finaliste, je sais pas, ça va se jouer, mais voilà.
On verra,
mais
Abdoulaye,
c'est ce soir. Vous pensez plutôt, parce que moi, c'est la décision du cœur et peut-être du supplément d'âme.
J'ai dit que l'Italie ira au bout.
Non, mais moi aussi, je parle du Danemark ce soir, qu'est-ce que vous pensez?
Le Danemark, je pense que
ce serait la victoire.
Vous êtes plutôt comme Philippe, c'est-à-dire, a priori, vous préfériez le Danemark, mais vous pensez que ça sera l'Angleterre.
Non, je pense que ce sera l'Angleterre, mais pour la symbolique, le Danemark.
Pour la symbolique. Angleterre-Danemark, c'est la deuxième demi-finale.
Bon,
donc ce soir,
Danemark,
à partir de 21h, allez parier. Tiens, Françoise Degoy vous remboursera si
les
jamais vous perdez. On s'arrête quelques minutes.
Qu'est-ce que vous êtes méchant?
0826 300 pour participer à notre premier débat. Le procès Mila. 11 personnes condamnées à des peines de 4 à 6 mois de prison avec sursis. Reconnues coupables donc d'avoir participé au harcèlement en ligne de l'adolescente. Est-ce que vous jugez ces peines satisfaisantes? Est-ce qu'elles sont assez dissuasives selon vous? Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Venez en débattre avec les vraies voix. A tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
C'est le retour des vraies voix sur Sud Radio avec Françoise Degoy ce soir, Philippe Bilger, le policier, Abdoulaye Kanté. On poursuit le tour de table de l'actualité. Tiens, justement, avec vous, Philippe Bilger, c'est votre tour. Xavier Bertrand, invité du 20h de TF1. Tiens, je vous propose d'écouter ce qu'a dit le président des Hauts-de-France.
Ce soir, devant les Français, je suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis candidat pour être président de la République. Et c'est une candidature de cohérence. Cohérence avec ma conception de l'élection présidentielle. C'est une rencontre entre un homme, une femme et les Français. Et aussi cohérence par rapport à tout ce que j'ai déclaré depuis des mois et des mois. Depuis le premier jour, j'ai joué la carte de la vérité et de la transparence. En indiquant que si j'étais élu à la tête de ma région, je serais candidat à l'élection présidentielle. Et donc en cohérence, je ne serais pas candidat à une primaire.
Et si c'était Xavier Bertrand, le prochain chef de l'État en 2022? Allez, pas de plan sur la comète. Philippe Bilger, comment vous l'avez trouvé, Xavier Bertrand?
Eh bien, je ne l'ai pas vu hier soir, mais j'ai lu ce qu'il a dit et je n'ai aucune raison de dissimuler que j'ai beaucoup de sympathie pour Xavier Bertrand, mais que parfois j'ai du mal à appréhender correctement sa stratégie. Je comprends bien qu'il veuille respecter le syndrome gaullien de la relation exclusive d'une personnalité avec le peuple, mais je dirais que d'abord, tout le monde n'est pas de Gaulle, et qu'ensuite, même s'il se place dans ce registre, ça ne devrait pas lui interdire de ne pas radicalement couper les ponts, apparemment, avec les Républicains, au sujet desquels j'aurais beaucoup à dire, compte tenu de la manière dont Christian Jacob les dirige et dont, à l'heure actuelle, des tensions très nettes se font jour, tout simplement parce qu'on refuse, contrairement à d'autres partis, et je pense à Europe Écologie Les Verts, l'exercice démocratique qu'est la primaire. Ce serait si simple, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc je voulais dire que Xavier Bertrand doit faire attention. Il y a bien un moment, si la primaire LR a lieu, et si elle désigne, comme je le crois, un gagnant ou une gagnante, où il faudra que la droite classique s'en entendent. Il n'est pas convenable que dans le même camp, il y ait deux candidats, sinon on perd toute chance d'aller au premier tour. Donc j'aimerais que Xavier Bertrand mette un peu d'eau démocratique dans son vin solitaire. Et mon Dieu, pourquoi pas, pour l'instant, tout cela est un peu effervescent.
Ouais. Bon, il ne changera pas d'avis, hein, Xavier Bertrand, ça c'est sûr. D'ailleurs, il a expliqué qu'il ferait un mandat unique de 5 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe Bilger s'il y a deux candidats, Xavier Bertrand plus un candidat issu de la primaire, c'est...
Je vais vous étonner, je pense qu'il n'y aura pas de primaire. Ouais. Je pense que la primaire est suicidaire, je pense que la moitié des... Parce qu'il y a ceux qui la veulent en sachant qu'ils n'ont absolument aucune chance, même s'ils la gagnent. On voit bien où mène la ligne Retailleau ou Wauquiez. Elle ne mène absolument nulle part. Elle mène à 9% pour Bonamy. La droite n'est pas dingue. Ah. L'électorat de droite, il a envie d'une chose, c'est de gagner. On sait très bien que le profil pour gagner... profil pour gagner, c'est combien je prends à Macron. Donc il faut quelqu'un qui soit de droite, etc. Et au second tour, est-ce que la gauche peut voter pour moi pour battre Marine Le Pen? Évidemment que la gauche n'ira jamais voter Wauquiez ou Retailleau.
Mais Bertrand,
donc,
oui.
Mais Bertrand, évidemment. Ouais. Donc ça veut dire que, pour moi, la messe est dite. Et je pense en plus que Laurent Wauquiez fait semblant de ne pas le savoir. Comme Bruno Retailleau, savent très bien qu'ils n'ont pas de chance dans un concours présidentiel. Simplement, ils ne supportent pas l'idée que Xavier Bertrand, qu'ils méprisent, c'est quasiment un mépris de classe, hein. C'est vraiment l'assureur, le débile, etc. Ils ne supportent pas que Xavier Bertrand ait pris ses devants. Et la réalité est têtue. Xavier Bertrand, il fait exactement comme Nicolas Sarkozy en 2007. J'en parlais l'autre jour avec Franck Louvrier. Je lui dis, tu sais Franck, ça m'impressionne. Il est dans « je cours dans mon couloir ». Voilà. Nicolas Sarkozy n'a absolument pas attendu l'autorisation de Jacques Chirac ni de personne. Il est parti et Xavier Bertrand court dans son couloir et je pense que les Républicains s'écraseront et qu'il n'y aura pas de primaire.
Qu'est-ce qui va se passer? Christian Jacob va dire finalement Xavier Bertrand, c'est le candidat naturel de la droite et puis c'est tout.
Ils vont arriver à ça sur Abdoulaye les sondages. La primaire, ça sera les sondages.
Ouais, ça sera les sondages,
en fait, comme dit François, c'est ce que veut comme Christian Jacob. Je pense que la primaire, ce sont les sondages parce que je pense qu'effectivement l'électorat de droite navigue, on va dire, dans le flou. Il n'y a pas une personnalité qui sort, entre parenthèses, du lot, mais quel lot?
Parce que c'est Xavier Bertrand.
Oui, je dis, c'est la seule qui s'est affirmée, qui a affiché ses ambitions, c'est Xavier Bertrand.
Et qui est à 18-20% dans les
sondages. Et tout le reste, justement, se regarde comme ça, se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait et tout. Donc je pense qu'effectivement, il voit que ça tatillonne. Il dit, écoutez, vous êtes en train de faire votre tambouille. Moi, je vais affirmer ce que je veux. Voilà. Et je ne vais pas me prendre la tête à faire des primaires qui seront inutiles et peut-être même qui vont peut-être aussi suicidaires pour lui. Hein. Mais il dit, non, je vais aller tout droit et le reste, démerdez-vous.
Et si c'était la bonne stratégie, Philippe Bilger, finalement, pas de primaire? Xavier Bertrand,
je ne crois pas,
au final, au second tour.
Si les paris n'étaient pas stupides en matière politique, je le ferais volontiers avec Françoise sur la primaire. Mais j'indiquerais tout de même qu'il y a une énorme différence entre Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand. C'est que Nicolas Sarkozy s'est lancé seul, certes, Françoise, mais il était soutenu absolument par tout son parti.
Oui,
et ça a été beaucoup plus facile. C'était un candidat à l'époque incontestable.
Conviction, alors j'entends ce que vous
dites.
Il
a d'ailleurs fait une campagne, de mon point de vue, en 2007, je parle de la campagne, éblouissante,
je vais
après
répondre.
Ça s'est dégradé.
Allez, je vais vous répondre très vite en disant que oui et non, parce que vous avez des cadors qui se déchirent, mais je pense, et je le redis, que l'électorat de droite, la seule chose qu'il veut, c'est regagner. Et si vous lui donnez un candidat à 18 ou 20% dans les sondages, il le prendra. Ceux qui grognent et ceux qui coincent, ce sont vraiment les têtes d'affiche d'une coquille vide qui s'appelle les Républicains. Et il y en a quatre, en fait, en gros, trois ou quatre.
Plus Morin, plus Hervé Morin.
Donc, ça veut dire que, à mon avis, la poussée de l'électorat fera la différence.
Dans un instant, le premier débat des vraies voix autour du procès Mila. On change de sujet. 11 prévenus reconnus coupables ce matin d'avoir participé au harcèlement en ligne de Mila. Des peines de 4 à 6 mois de prison avec sursis. Est-ce que vous jugez ces peines satisfaisantes? Est-ce qu'elles sont assez dissuasives? Selon vous, vous dites non à 91% sur Twitter. Vous nous appelez pour réagir. C'est Mélodie qui vous attend au standard 0826 300 300. Jusqu'à la mort, c'est des quieros.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
On a gagné et on gagnera encore. Parce que ce que je veux, c'est que tous ensemble, on n'arrête jamais de baisser les bras, qu'on continue de se battre. Ce que je veux, c'est que les personnes qui seraient considérées comme des pestiférés, à qui on interdirait les réseaux sociaux, ce soit ceux qui harcèlent, qui privent de la liberté des gens, ceux qui menacent de mort, ceux qui incitent au suicide. Et je veux plus jamais qu'on fasse culpabiliser les victimes. Et comme je l'ai dit dans mon livre, force à nous.
Les vraies voix Sud Radio.
Force à nous, dit Mila, les réquisitions du procureur ont été suivies. 11 personnes condamnées à des peines de 4 à 6 mois de prison avec sursis, reconnues coupables d'avoir participé au harcèlement en ligne de l'adolescente. Est-ce que vous jugez ces peines satisfaisantes? Tiens, est-ce qu'elles sont assez dissuasives? Ces peines 4 à 6 mois avec sursis, vous dites non à 90% sur Twitter. Vous nous appelez 0826 300 300. Venez en discuter avec Philippe Bilger qui est avec nous aujourd'hui, le policier Abdoulaye Kanté, Françoise Degois. J'aimerais qu'on accueille tout de suite, si vous le voulez bien, avant de vous donner la parole, Abdelhak qui nous appelle de Mont-de-Marsan. Bonsoir Abdelhak.
Bonsoir et bonsoir à tous les invités que j'aime beaucoup.
Mais bonsoir, bonsoir, très bien. Ravi de vous faire plaisir, Abdelhak. Françoise Degois, Philippe Bilger, Abdoulaye Kanté, satisfait de ces condamnations?
Oui, alors satisfait, c'est un bien grand mot. J'aurais aimé, comme à beaucoup de gens, que le fait divers n'existe pas du tout. Mais ça démontre au moins, ça démontre malheureusement, c'est la suite logique de l'adaptation de la justice aux réseaux sociaux d'aujourd'hui.
Alors, Abdelhak, je suis désolé, je vous coupe, Abdelhak, on va mettre Mila quelques minutes entre parenthèses, puisque le direct n'attend pas l'arrivée du Tour de France. Le Mont Ventoux, l'ascension du Mont Ventoux part deux fois aujourd'hui, avec ces coureurs qui arrivent. Je vous propose tout de suite, avec notre consultant Vincent Barthaud, de suivre cette arrivée.
Béarn Pyrénées Tourisme et Gîtes de France 64 présente.
Sud Radio fait son Tour de France.
L'ascension du Mont Ventoux par deux fois aujourd'hui, c'est énorme et c'est une première. Vincent Barthaud est avec nous, ancien coureur et consultant Sud Radio. Bonsoir Vincent.
Oui, bonsoir à tous, bonsoir à tous.
C'est le dernier kilomètre, Vincent.
Oui, Wout Van Aert va remporter cette étape magnifique, dans cette étape de légende avec cette arrivée à Malocène. Il a fait vraiment un grand numéro. Wout Van Aert, après avoir été échappé avec des Français aussi qui ont fait une belle course, Pérez, Ellison, Bernard, Pierre Roland. Mais Wout Van Aert les a tous lâchés dans cette deuxième ascension du Mont Ventoux. Il possède plus d'une minute d'avance sur Mollema et Ellison. Arrivera après un petit peu Pogacar qui perd un petit peu de temps par rapport à Vingegaard. Mais ça reste dans de bonnes choses pour Pogacar, alors que Wout Van Aert, eh ben, c'est un festival, c'est sa troisième participation sur le Tour de France. Ça va être sa quatrième victoire aujourd'hui. C'est magnifique, c'est un coureur qui remplit de valeur plusieurs fois. Champion du monde de cyclocross en 2016, en 2017, en 2018. Il a été aussi champion de Belgique contre la montre en 2019-2020. L'année dernière, il a aussi remporté Milan San Remo, Gambé-Belgame, Lastem Gold Race cette année. On a vraiment affaire à un coureur belge qui peut-être dans les prochaines années ce sera lui qui sera le futur vainqueur du Tour de France.
Et voilà la victoire du coureur belge que vous avez suivi en direct sur Sud Radio avec vous, Vincent Barthon. On va vous retrouver allez, dans une petite heure maintenant. Vous serez accompagné de votre collègue, l'ancien coureur Pascal Chanteur, consultant Sud Radio. On va débriefer évidemment cette étape du Tour de France, 199 km, l'ascension du Mont Ventoux, et on va en avoir des choses à dire tout à l'heure. À tout à l'heure, Vincent Barthon.
Sud Radio fait son Tour de France.
Avec Béarn Pyrénées Tourisme et Gîtes de France 64.
C'est ça aussi les vraies voix sur Sud Radio. On passe de Xavier Bertrand à Mila, de Mila au Tour de France, de l'arrivée du Tour de France à Mila.
La polyvalence.
La polyvalence, voilà, c'est ça. On va reparler du Tour de France, Françoise, dans une petite heure maintenant avec nos avec deux plaisir. Consultants. Les condamnations donc dans le procès Mila, 4 à 6 mois de prison avec sursis. Je vais vous redonner la parole, Abdelhak. Dans un instant, j'aimerais juste avoir la réaction de nos vraies voix. Tiens, Philippe Bilger, 4 à 6 mois de prison avec sursis. Alors, un prévenu qui a été relaxé, il faut le dire. Est-ce que ça vous paraît satisfaisant, Philippe ?
Bien sûr, on peut estimer que tout cela est insuffisant, mais il faut bien voir que ce procès des harceleurs et ses faibles de Mila est une première. On n'a eu que 13 prévenus, il en aurait fallu des milliers. Les condamnations ont été conformes aux réquisitions du ministère public. C'est un début, et donc je ne cracherai pas sur cette esquisse judiciaire qui représente tout de même un progrès. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la déclaration très digne de Mila après. Il est évident, et là je rentre dans un détail technique, que j'accepte volontiers la modération de ces peines qui sont conformes, je le répète, à ce qu'avait requis le ministère public. Mais il va de soi que si certains de ces malfaisants qui ont été condamnés recommencer à harceler, à menacer de mort Mila, là j'espère qu'on aurait une exécution de la peine qui serait enfin cohérente, révocation des sursis, ouais. Évidemment lourde peine après. Mais
bon, je pense pas qu'ils vont recommencer. Dieu, hein. Les 11 prévenus qui ont été condamnés, je pense pas qu'ils vont s'amuser à recommencer.
Je n'en suis pas sûr du tout.
Absolument d'accord avec ce que dit Philippe Bilger. Ouais. Voilà, la justice, c'est pas la vengeance. On est dans un état de droit. Je trouve que c'est très lourd. Les gens qui commencent à tweeter, à s'énerver en disant oui, il n'y a rien de dissuasif. Tu parles, Charles, il n'y a rien de dissuasif. Prends-toi 4 à 6 mois de prison, même avec sursis. Tu vas voir si c'est pas dissuasif parce qu'il y a inscription, évidemment, au casier judiciaire. Ouais. Vous commencez vachement bien la vie.
Ça, c'est bien parce que c'était pas ce qu'avait requis le procureur, l'inscription
donc,
au casier judiciaire.
Là, il y a l'inscription. Ouais. Inscription au casier judiciaire, c'est une épée de Damoclès sur eux, comme le dit Philippe. Si jamais il recommence, bam, c'est direct, avec suppression, effacement du sursis. Écoutez, pour une première, je trouve que c'est quand même drôlement bien. Absolument. Il y a quelques mois, on pouvait même pas. Philippe, vous êtes d'accord qu'on pouvait même pas imaginer qu'il y avait il y aurait pu y avoir un procès là-dessus. Ouais. Il y a un procès. Mila est super digne. Elle est formidable, cette petite jeune fille. Je l'adore vraiment. Je la kiffe, cette Mila. Vraiment, je l'adore. Et voilà, je suis 100% d'accord avec Philippe Bilger. Rien à ajouter. J'ai mis ma patte, mais c'est surtout, il faut écouter Bilger parce qu'il a vraiment raison très souvent sur la justice.
Non mais Françoise, c'est vrai, hein, dans le domaine judiciaire, j'ai eu le bonheur de vous le dire, je trouve qu'en permanence, vous avez une position juste.
Sur l'équilibre, ouais, mais c'est dur à tenir nos positions d'équilibre, hein, mon cher ami.
Chère Françoise, en matière judiciaire, hein,
j'ai bien compris qu'on ne va pas partir sur la politique. Parce qu'on va se peigner sur la politique
mais
à un moment donné.
En tout cas, c'est très intéressant.
Bon, c'est déjà ça. Abdoulaye Kanté, c'est une victoire pour la liberté d'expression, ces condamnations aujourd'hui.
Je l'avais dit quelque part que la liberté d'expression et la laïcité sont négociables dans notre République. Mmh. Et ce qui est intéressant, je pense que quand le magistrat a donné justement sa décision, c'est qu'il a fait preuve de pédagogie parce qu'on fait face à 13 prévenus, c'est ça, je crois, dont un relaxé. Aussi une personne ici pour vice de procédure.
Tout à fait.
Et tout le reste ont été condamnés. Et il expliquait que dans sa décision, que vous savez, quand vous êtes dans la rue et que vous, quelqu'un qui ne vous revient pas, ne vous autorisez pas à l'insulter. Abstenez-vous. Et c'est ce qui a été dit, en fait. Vous voulez faire preuve de pédagogie. Et je pense qu'effectivement, je pense que c'est une première. Mais encore une fois, c'est vrai qu'il est nécessaire que à la fois que la justice aussi prenne ses responsabilités, tout comme aussi les réseaux sociaux. Je m'explique. Récemment, le Parlement, le Sénat a justement mis en garde, justement, ou a demandé à sommer, par exemple, le réseau social Twitter, de leur fournir leurs éléments, comment ils luttaient contre pour la modération. Parce qu'il faut savoir que ce qui fait marcher ces réseaux sociaux, c'est évidemment c'est le buzz, c'est tout, c'est le relais, le retweet, etc. Et c'est ça qui leur fait fonctionner. Et aujourd'hui, je pense que c'est une première, se dire que non, vous ne pouvez plus vous permettre de harceler quelqu'un parce qu'elle a sa liberté de penser, elle a sa liberté d'expression. Et ce qui fait notre démocratie ici, c'est que quand vous êtes, on va dire, au niveau de la loi, dans le respect de la loi, vous pouvez dire ce que vous voulez et cela ne vous donne aucunement l'intention d'insulter quelqu'un.
Ouais. Abdelhak, on retrouve Abdelhak. On vous aviez coupé Abdelhak pour suivre l'arrivée du Tour de France. Ça vous paraît adapté les peines de prison avec sursis, 4 à 6 mois ?
Écoutez, je suis tout le monde là-dessus. Il y a absolument rien à dire. Ouais. Ajoutez juste que j'aime beaucoup, ça me plaît beaucoup, le fait qu'on prenne enfin compte de la violence, parce que c'est une violence incroyable, parce que les gens ont tendance à minorer la violence des réseaux sociaux, voilà, qui pour, il y a des enfants, il y a très couramment, il y a des enfants qui vont jusqu'au suicide après avoir été bannis sur les réseaux sociaux le jour lendemain parce qu'ils ont l'impression que c'est leur vie. Et là, on condamne en fait des SMS, des mots, des messages qui sont passés par les réseaux sociaux pour la plupart d'entre eux. Donc, au moins, ça, c'est quand même assez nouveau parce que physiquement, j'allais pas dire qu'il y a presque rien, parce qu'il y a un suivi, mais c'est quand même virtuel, ça reste quand même, les personnes ne connaissent même pas la personne qui critique, à qui ils font des menaces, ils l'ont jamais vu, ils la connaissent même pas physiquement, et c'est que c'est presque de la fiction, quoi, donc, mais le crime est là, quoi, et donc, et que ce soit, c'est pour ça qu'il fallait pas que ce soit plus que du sursis, parce que je veux dire, il y en a qui violentent leur femme tous les jours et on n'arrive même pas à leur coller.
C'est vrai, Abdelhak, mais bon, après, c'est un début parce que juste pour finir, juste vite. Abdelhak, il faut savoir aussi que vous avez des personnes qui ont accès aux réseaux sociaux qui sont aussi fragiles. Vous avez des personnes qui, justement, ça les pousse aussi au suicide parce que juste qu'ils peuvent tweeter peut-être une image ou quelque chose comme ça, ça peut aussi ils peuvent avoir un tonneau d'insultes. Moi, j'en fais partie. Et c'est vrai que des fois, si vous n'êtes pas bien, on va dire, dans vos baskets, des fois, il y a certains qui commettent irréparables.
Enfin, nous, on n'est pas des petites choses fragiles. Hein. Bidjer, Abdoulaye et moi, Philippe,
ça c'est sûr, ça c'est sûr.
Vu ce qu'on ramasse toute la journée, ça peut vous dire.
4 à 6 mois de prison avec sursis. 4 à 6 mois de prison avec sursis pour les harceleurs de Milès que vous trouvez la peine dissuasive.
Ah oui,
Julien.
Vous êtes noir de service.
Julien nous appelle de l'Essonne. Bonsoir, Julien.
Bonsoir, Julien. Oui, bonsoir. Alors, moi, je pense que c'est pas assez. Dans le sens où c'est une épée de Damoclès, mais je pense qu'ils n'ont pas conscience de ce que c'est et de ce que ça brise dans la vie. Et je pense que dans beaucoup d'affaires, par exemple, Abdoulaye va pouvoir le confirmer, quand une personne est arrêtée, elle ne repasse pas par la case liberté, elle va directement en prison le temps qu'on traite son dossier.
Ça dépend pas tout le temps.
Mais je pense que ces 3-4 jours de confrontation à ce que c'est que réellement une peine de prison, ça remet un peu les idées en place. C'est pas une condamnation en soi, on est relibéré derrière, mais je pense que déjà ça remet un petit peu les idées. Moi, j'ai eu le privilège, on va dire, de faire une nuit de garde à vue, j'ai compris, j'ai pas envie de recommencer, je sais à quoi m'attendre.
Ça vous a donné une leçon. C'est vrai aussi.
Ils ont fait la garde à vue. Ils ont fait la garde à vue quand ils ont été interpellés.
J'espère, oui, parce que après, moi, ce que je trouve dommage dans cette affaire, c'est que la petite Mila, je pense que, bon, je trouve qu'elle a des épaules solides, parce qu'elle ne se laisse pas démonter, ça m'impressionne, enfin, je la respecte pour ça, mais elle est instrumentalisée par les gens d'extrême droite, plutôt islamophobes, qui se servent d'elle, malheureusement.
Il a raison, grimée
en Jeanne d'Arc, c'est quand même un symbole fort, quoi.
Franchement, il a raison. Allez, vraiment, pour finir,
Françoise, qu'on doit passer à notre deuxième
débat.
Mais
notre auditeur, vous avez raison. C'est-à-dire que moi, je trouve Mila juste extraordinairement courageuse. Son avocat est super, vraiment, Malka, je trouve que vraiment, il fait un travail remarquable. Mais il a raison, notre auditeur. Mila est devenue un objet politique pour une partie de la droite la plus radicale et de l'extrême droite. Je suis désolée, c'est vrai.
Elle
n'a rien demandé, mais c'est ça. C'est ça qui est dégueulasse de la part de la droite radicale.
Merci à Abdelhak. Et puis merci donc voilà à Julien de l'Essonne. Merci pour votre analyse.
Très bon, Julien. Bravo Julien.
Merci Julien. Bah, vous reviendrez. Voilà, vous reviendrez dans Les Vraies Voix. On passe tout de suite à notre deuxième débat.
Dire les trucs, c'est bien. Hein.
Les Vraies Voix Sud Radio.
Allez, il nous reste quelques minutes. Le deuxième débat autour de la remarque gênante, on va dire ça comme ça, déplacée de Gabriel Attal. On en parle beaucoup, en tout cas sur les réseaux sociaux ces dernières heures. La scène a été filmée, ça s'est passé durant un concours d'éloquence des armées. J'aimerais vraiment avoir votre avis. À vous les vraies voix, à vous au 0826 300 300, le porte-parole du gouvernement qui a fait une remarque sur l'origine d'un livreur dénommé Charles-Henri. Écoutez, on va vous repasser toute la scène. Ça commence avec le discours d'un jeune militaire.
Personnellement, mon héros de l'année, ce n'est pas Elon Musk qui m'annonce que la pelouse sera verte sur Mars. Moi, ça a été Charles-Henri, 22 ans, qui me livrait mes sushis à 22h.
J'ai compris que c'était Charles-Henri qui vous livrait vos sushis à 22h. Du coup, je voulais savoir où est-ce que vous habitez.
À l'humour, parfois, change de camp.
Mais les clichés sont toujours dans le même camp. Parce que figurez-vous que j'habite à Marseille. Alors, c'est vrai, peut-être qu'à Paris, les Karim, ils sont dans la rue, et à Marseille, ils sont à l'université.
Alors, est-ce que vous trouvez les propos du porte-parole choquants? Vous dites oui à 86% sur Twitter. Avant d'accueillir Didier qui nous appelle de Martigues, j'aimerais avoir votre avis. Tiens, Françoise, juste après Philippe.
Masterclass de notre militaire. Eh là, oui, vraiment, il est bon, vraiment hein. Masterclass. Ouais. Le problème de Gabriel Attal, tout le monde pense qu'il a un talent énorme. Moi, je n'ai jamais pensé qu'il respirait le talent. Pas du tout. C'est quelqu'un qui travaille des punchlines.
C'était pour faire une bonne blague.
Et quand vous voulez faire un bon mot, vous savez, un jour, il n'a pas la qualité de Hollande, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Mais un jour, Jospin a dit cette chose très, très, très belle et très juste à Hollande, il lui a dit, ton humour un jour te perdra. Ouais. Et je pense qu'à force de vouloir faire des punchlines et de faire le plus malin de sa classe, quoi, parce que c'est quand même ça qui caractérise Gabriel Attal, il est charmant, mais il a aussi ce côté-là, eh bien, il se prend le boomerang. Après, est-ce que ça vaut le coup d'en faire des tonnes?
Je suis pas sûr. Non. C'est vrai, vous avez raison. D'ailleurs, il n'a pas répondu, Gabriel Attal.
Il peut pas répondre. Militaire.
Philippe Bilger.
Un petit désaccord avec Françoise, ouais, tout de même, c'est-à-dire que déjà Gabriel Attal a dit qu'en réalité il voulait mettre à l'épreuve la capacité de réplique du jeune homme.
Ouais.
Je
ça,
ne crois
ça.
Pas.
Il se rattrape bien.
Mais il y a deux choses. Moi, j'aime bien Gabriel Attal dans un gouvernement qui ne brille pas par le talent collectif. Il en a, je trouve. Mais deuxième élément, je n'aime pas cette manière d'aller exhumer comme ça d'anciens propos et au fond de les et là je rejoins François
on les monte en épingle
d'une manière qui est grotesque. Ça n'est tout de même pas himalayesque.
Il y a tellement de raisons moi que j'ai pour combattre et critiquer ce gouvernement et l'action de ce président, etc. Je trouve ça un peu dérisoire, mais c'est ceci ridicule. Dit je trouve qu'il y a ce qui dégage de Gabriel Attal, c'est une forme de mépris de classe, honnêtement. Oui,
c'est
vraiment...
comme ça que les gens l'ont perçu, en tout cas.
Bien sûr.
Didier est avec nous, Didier de Martigues.
Bonjour équipe,
bonsoir à vous Didier. Alors, choqué ou pas par les propos de Gabriel Attal?
Alors choqué, c'est
un grand mot
quand même. Mais je dirais quand même que ça résume quand même une forme de pensée racialiste quelque part. Je n'ai pas dit raciste, c'est racialiste dans le sens où, si je résume un peu la pensée de Gabriel Attal, pour être livreur de sushi, il faut
s'appeler Karim.
Chang, livreur de kebab, il faut s'appeler Karim. Ouais. Et être livreur de pizza, il faut s'appeler Giovanni par exemple.
C'est très bon.
C'est un peu ça.
C'est gentil.
C'est trop génial, c'est excellent.
Donc ça résume un peu une pensée un petit peu.
C'est de l'essentialisme en fait. C'est dans l'essentialisation.
Toute généralisation est abusive. C'est un peu la marque de la démission de l'esprit quelque part. Donc ça me fait c'est quelque part.
Abdoulaye. Alors après peut-être qu'il le pensait pas. C'était pour la blague. Bon, même si pour la blague, c'était un petit fond de pensée aussi. Tiens, c'est Laurent Ruquier qui disait malheureusement, parfois je serais prêt à tout pour une bonne blague et parfois ça ne me sert pas.
Non, mais c'est surtout que l'humour.
Un bon jeu de mots, une bonne blague.
L'humour reflète la pensée vraiment profonde.
C'est peut-être que sûrement que l'humour reflète la pensée. Mais quoi qu'il en soit, c'est que c'est sur ce que je combat tous les jours, c'est-à-dire la catégorisation, l'essentialisation. C'est ce qui en fait du mal à notre pays. Et c'est vrai que même s'il a dit peut-être sur un ton, on va dire, humoristique, peut-être que ça reflète aussi le fond de sa pensée. Mais j'espère aussi que même si il disait que voilà, dans quel quartier vous vivez, j'espère qu'il pense pas que ce soit que des Karim ou des Mohamed qui sont des livreurs de sushis. Où il peut avoir aussi des Philippe ou des Françoises
qui font aussi des livraisons.
Il y en a. Comme des Abdoulaye qui sont dans la police. Et donc j'espère qu'on, au-delà de ça, ça, on passera à autre chose.
T'as raison, Abdoulaye. Merci, Didier.
Et un jour, dit Abdoulaye, merci. Président de la République. Mais oui, moi, j'en rêve. Non, non, mais moi, je vous le dis, j'en rêve. Alors,
merci, Didier. Merci
pas
à vous.
Forcément, mais un Abdoulaye, pourquoi pas. Un Abdoulaye peut en cacher un.
Réécrivez, Didier, ce que vous avez dit sur Twitter et Françoise de Goix va vous retweeter.
Ah non,
voilà,
mais c'était
ce
vraiment
sera votre
excellent.
Jour de gloire.
Ah non, mais c'est. Non, merci. Pas un jour de gloire, tu parles.
Merci, Didier. Les débats des vrais voix, écoutez en podcast sur notre site sudradio.fr, en vidéo sur YouTube. Dans un instant, on joue au roi de l'info. Allez, venez participer au roi de l'info, faire équipe avec une de nos vraies voix, 0826 300 300.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
C'est la suite des vraies voix avec Françoise de Goix ce soir, Philippe Dilger, Abdoulaye Kanté, Stéban Ragnan. On joue tout de suite et avec vous au roi de l'info.
Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info.
Allez, les rois de l'info pilotés comme chaque jour par Esteban et vous 0826 300 300.
Et c'est Pascal aujourd'hui qui joue avec nous. Bonsoir Pascal.
Bonsoir à toute l'équipe.
Bonsoir Pascal.
De radio, bonsoir. Et puis j'espère que vous avez du beau temps parce que sinon on a pris une saucée dans le Lot-et-Garonne.
Vous êtes là ? Oh bon, non, oui. Bah, qu'est-ce qui vous arrive ? Non, ça va.
Ah, mais c'est pas variant, hein, c'est juste une saucée. Hein.
Ah bon, bah, très bien, c'est épisodique. Chez nous ça va, mon cher ami, il fait un peu frais, mais ça va.
Oui, on va pas faire des manins, ça va, regarde-le. Non mais ne le croyez pas, mais arrêtez.
Ça c'est typiquement français que c'est plein.
Non, mais il a plu pendant 15 jours, non, parce que c'est les Paris Go, qui méprisent les gens du Sud.
Pas du tout.
Pascal, vous avez la possibilité de jouer avec Philippe Bilger, Abdoulaye Kanté ou Françoise de Goix, avec qui souhaitez-vous jouer ?
Oh bah, je vais jouer avec Françoise parce qu'elle a toujours le dernier mot. J'avais déjà joué avec Philippe Bilger une fois. Donc,
bon, bah, très bien.
Allez, on va rigoler.
Allez-y, on y va.
Soit, je rappellerai que c'est Pascal qui répond en premier.
Blablabla. Bla, bla. Pourquoi est-ce que c'est toujours à moi qu'on répète les règles ?
Je sais pas, c'est étonnant.
Pourquoi c'est à moi ? Jamais on soupçonne Philippe ou Abdoulaye.
Pascal, hier il y avait le match Espagne-Italie pour la demi-finale de l'Euro, mais où s'est déroulé le match ? À Londres, à Budapest ou à Bucarest ?
Oh non, mais n'importe quoi, toi, c'est quoi cette
alors,
question ?
Alors là, je vais vous dire franchement...
Wembley, Londres.
Je vais laisser Françoise répondre, non, parce que là bon. Je vais dire une bêtise.
C'est bon, on a gagné.
Bien joué. Deuxième question.
On a gagné
bon,
déjà.
On part sur un tout autre sujet. Quel couple de stars de la télé-réalité s'est fait cambrioler pendant leur mariage hier ?
Je sais.
Est-ce que c'est Nabila et Thomas Vergara ? Est-ce que c'est Jazz et Laurent ? Ou est-ce que c'est Julien et Manon des Marseillais ?
Nabila et Thomas Vergara. Boum, j'ai gagné.
Ouais. Elle s'appelle Pascal, Françoise.
Super.
Pascal,
merci,
E.
Pascal, hein.
Françoise.
C'était annulé.
Moi, je suis une ségoléniste royaliste. Ouais, ouais. Je suis une disruptive.
Ouais. Elle adore jouer, Françoise. Elle adore jouer.
France, Grèce, la France.
En fait, les pauvres Nabila et Thomas, ils se sont fait voler presque 150 000 euros. De...
Bah, ça veut dire qu'ils les avaient déjà. Vous n'avez qu'à venir voler chez moi, vous allez voir, il n'y a rien.
Vous connaissiez Nabila, Pascal ? Oui.
Non,
bah vous avez raison.
Moi, je suis plus encore dans les années 80, donc dans les films, voilà.
Bon, allez, dernière question.
Dans quel pays le président s'est-il fait assassiner la nuit dernière par un commando armé ? Est-ce que
c'est Haïti.
C'est Haïti.
Haïti.
Ah, il a trouvé.
Elle est trop forte, Françoise.
Terrible.
Bravo.
C'est terrible ce qui
allez,
se passe.
Allez, bravo.
On est en finale. Pascal. La fille qui mélange tout. On est en finale.
Alors, on sent la joie de Françoise quand même.
Vous pouvez remercier Françoise de Goix, mon cher Pascal. Qui vous a bien aidé. Je vous dis à bientôt, Pascal, peut-être pour rejouer avec nous.
Excusez-nous du bruit, parce que là, c'est deux mirages qui nous rasent les oreilles en ce moment. Vous avez dû les entendre passer.
Oui, c'est vrai.
C'est en préparation du 14 juillet. Quoi.
Merci. Ah, voilà, ils s'entraînent pour la fête nationale dans quelques jours. Merci à vous, Pascal.
Merci, Pascal. Bon week-end et bonne journée.
Continuez d'écouter Sud Radio et les vraies voix, puisque dans quelques instants, eh bien, on laisse place à notre grand débat. Faut-il interdire certains lieux aux non-vaccinés ? C'est ce que fait, par exemple, l'Irlande ou le Danemark. Le gouvernement y réfléchit. Vous votez sur les réseaux sociaux et le 0826-300-300 pour réagir. Et puis, dans quelques minutes, restez avec nous. On sera avec la ministre Nathalie Elimas, secrétaire d'État auprès de Jean-Michel Blanquer. On reviendra avec elle sur les résultats des bacs et sur les discussions autour de la vaccination obligatoire des enseignants. Voilà, on fera un petit point dans quelques minutes. À tout de suite.
«
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Et les vraies voix sont de retour sur Sud Radio à 18h06. Bienvenue 0826-300-300 pour participer à l'émission. À nos débats ce soir, c'est avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, qui est avec nous. Françoise Degois, le policier Abdoulaye Kanté, restez avec nous dans quelques minutes. Le grand débat des vraies voix, faut-il interdire certains lieux aux non-vaccinés? 0826-300-300. On vous attend pour en débattre. Vous dites non à 90% sur le compte Twitter de Sud Radio. 0826-300-300. On passe tout de suite au tour de table de l'actualité.
Les vraies voix Sud Radio.
Le tour de table de l'actualité. On accueille la ministre Nathalie Elimas qui est avec nous. Bonsoir Madame la ministre.
Bonsoir.
Ravie de vous recevoir, secrétaire d'État auprès de Jean-Michel Blanquer. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Je vous présente Françoise Degois, Philippe Bilger, Abdoulaye Kanté. Alors les résultats du baccalauréat, c'était hier. Hein. Et je vous donne tout de suite donc le taux d'admis, c'est ce qui nous intéresse. Toutes filières confondues, le taux d'admis au bac baisse légèrement, mais très peu. 90,5% sur les 704 000 candidats qui ont été reçus, des épreuves de tronc commun et de spécialité annulées, une plus large part accordée au contrôle continu, 80% au lieu de 40% prévu par la réforme du lycée. Madame la ministre, on en parlait, c'est marrant, avec Abdoulaye hors antenne, certains perçoivent le bac 2021 comme un bac au rabais. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Bah, avant de parler d'un bac au rabais ou pas, je crois qu'on devrait quand même commencer par féliciter nos bacheliers. Ça, c'est la première chose. Féliciter nos bacheliers, encourager les étudiants, les lycéens, pardon, qui passent le rattrapage là, jusqu'à vendredi, connaîtront leurs résultats ce week-end. Et puis, dire à ceux qui ont été recalés, mais qu'il faut s'accrocher et recommencer l'année prochaine. Alors, un bac au rabais, pardon de vous le dire, mais je trouve ça assez irrespectueux. Pour les professeurs qui, tout au long de cette année, ont dispensé leurs cours dans des conditions quand même, encore une fois, particulièrement difficiles. Pour les élèves aussi qui ont passé le bac, c'était pas simple. Encore une fois, avec la crise sanitaire, la pression sanitaire, les demi-jauges, les cours à distance, voilà, c'était un défi à relever, ils l'ont relevé. Donc moi, je suis pas d'accord avec cette idée d'avoir fait passer un bac au rabais. Encore une fois, on est dans une crise sanitaire particulière. On n'en est pas sorti.
Et il fallait s'adapter.
Exactement.
Françoise Degois, est-ce que ça veut dire qu'on reviendra au bac classique après ? Non, parce que je veux bien tout ce qu'on veut, hein, moi, mais est-ce que ça veut dire qu'on reviendra à quelque chose qui marchait, hein, qui fonctionnait très bien, hein, contrairement
c'est-à-dire le bac sans contrôle continu, c'est ce que vous voulez
bien
dire.
Bien sûr, mais je ne comprends pas cette volonté, voilà, je vous pose la question, simplement, cette volonté, de toute façon, de tout casser, sanitaire ou pas, crise sanitaire ou pas, pourquoi est-ce qu'on ne reviendrait pas à un bac normal, qui a fait ses preuves, et qui a...
Parce qu'il y a eu une réforme du bac qui est passée par là, qui a été mise en place par Jean-Michel Blanquer.
Merci de me le dire,
qui a stoppé des décennies de pratiques et que justement encore l'année prochaine.
Ce que je vous demande, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait cette réforme ? Honnêtement, non mais quand on réfléchit bien, pourquoi on a fait cette réforme ?
Ben pour permettre aux lycéens justement de choisir des spécialités en fonction d'abord de leurs affinités. Voilà,
Vous savez très bien que cette réforme, elle est considérée comme bancale et ne donnant très peu de résultats.
Alors on écoute, vous savez qu'on écoute le territoire, on écoute le terrain. C'est la raison pour laquelle l'année prochaine, on va apporter des modifications encore.
Vous ajusterez.
Parce que justement, on va apporter des ajustements parce que dans cette première version, les professeurs, les établissements disaient que c'était pas simple à mettre en place. Donc l'année prochaine, on devrait apporter de la clarification avec toujours du contrôle continu. On valorise nos professeurs, on valorise leur travail, on valorise le travail de nos élèves.
Leur salaire aussi, je pense.
Et également...
Je
vous parle du bac, je ne vous parle pas du salaire. Peut-être que vous avez suivi la sortie du Grenelle des professeurs.
Non, et je l'ai suivi vraiment de A jusqu'à Z, pardonnez-moi.
Puisqu'on parle du bac, juste avant de donner la parole à Philippe Bilger et à Abdoulaye Kanté, j'aimerais revenir sur la publication des résultats du bac. Donc, vous le savez, un ralenti par des bugs sur la plateforme. Certains ont dû attendre 1h15, 1h30, 2h. Mais il y a eu pire quand même. Des élèves au rattrapage, malgré de bonnes notes durant l'année. Par exemple, certains élèves ont eu des notes de plusieurs matières qui n'ont pas été prises en compte. Tiens, j'ai le cas d'une élève qui a eu 15 de moyenne un petit peu partout. Sa note, quatre notes de quatre matières n'ont pas été prises en compte. Elle a passé le rattrapage.
Il y a eu des bugs
aujourd'hui et elle a attendu toute une journée avant de pouvoir passer le rattrapage.
C'est vrai qu'il y a eu quelques
Qu'est-ce
problèmes informatiques.
Qu'est-ce qui s'est passé, Madame la Ministre ?
Notamment sur la remontée des notes avec beaucoup de nos étudiants. Alors sur la première partie de votre question, beaucoup de lycéens qui se sont connectés en même temps, en même moment
ça,
sur la plateforme
ça,
Cyclades. Et il faut dire aussi que cette année, justement, parce qu'on est dans des circonstances particulières, on a adapté et on a dit qu'on retiendrait notamment pour l'épreuve de philosophie la meilleure note de l'épreuve terminale ou de celle du contrôle continu.
Mais
ça nécessitait de la programmation.
Sur certaines notes qui n'ont pas été prises en compte, c'est pas
un
bug, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont obligés de passer le rattrapage?
Non, mais je pense que ça peut tout à fait se corriger. En tout cas, ce que vous dites là, monsieur, c'est à la marge, bien sûr.
D'accord, donc ça concerne très peu d'élèves.
Absolument.
Bon, Philippe Bilger.
Madame la ministre, vous me pardonnerez une première intervention provocatrice. Donc, même quand on a un bon niveau, on peut réussir le bac.
Il est drôle.
Plus sérieusement, Madame la ministre, je me souviens de Jean-Michel Blanquer, intronisé comme ministre, et je l'ai beaucoup apprécié dans les premiers temps, notamment parce qu'il disait qu'il n'avait pas l'intention de tout bouleverser. J'entends bien que la crise sanitaire est passée par là, vous l'avez dit à Françoise de Goix, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression tout de même qu'on tombe un peu dans cette perversion ministérielle qui considère qu'on accomplit quelque chose que lorsqu'on transforme, ce qui parfois va à peu près bien?
Vous parlez de la réforme du bac, vous parlez des ajustements notamment
à
venir.
Mais on vous parle tous de la même chose en fait.
Je vais encore une fois à permettre aux étudiants d'aller choisir des épreuves de spécialité plus finement en fonction de leur sensibilité, de leurs affinités, de mieux se préparer aux études supérieures. Ça c'est la première chose. Et sur ce que l'on va faire l'année prochaine, c'est pas transformer pour transformer, c'est vraiment s'adapter en écoutant d'abord et toujours les professeurs. Et enfin, pour revenir sur la crise sanitaire, évidemment qu'il fallait être agile. Comment on aurait fait sinon, si on n'avait pas fait preuve d'agilité? Et quand je dis « on », d'ailleurs, je devrais dire les professeurs. Nos professeurs ont été absolument extraordinaires, exceptionnels pendant toute cette période. On a cessé d'adapter les protocoles sanitaires, les demi-jauges, l'enseignement à distance. Donc finalement, l'adaptation a eu du bon. En tout cas, elle était nécessaire. Et pour l'année prochaine, cette nouvelle répartition, elle a simplement pour objectif de clarifier les choses en laissant du contrôle continu parce qu'il y a moins de pression, moins de stress sur les élèves et en laissant aussi une part d'épreuves terminales plus importante, 60%, parce qu'on nous dit qu'en fait on veut régionaliser le bac, c'est pas du tout le sujet, au contraire, on va lui conserver sa valeur nationale, toute sa valeur justement, et puis il faut que les élèves aient la fierté aussi d'aller passer le bac.
Oui, et de passer les épreuves,
et
ça c'est vrai, vous avez raison. Abdoulaye Kanté.
Quand je vous expliquais, Madame la Ministre, tout à l'heure, quand je parlais de bac au rabais, c'était pas pour mépriser, on va dire, les élèves qui ont eu une certaine pression, parce qu'il y a eu des conditions sanitaires qui étaient difficiles, et aussi pour les professeurs, mais moi, je pense aux professeurs qui, eux, justement, font ce métier parce qu'ils sont en train de former nos jeunes de demain. Et quand vous formez un jeune de demain, c'est qu'il faut qu'il ait les capacités, c'est-à-dire le bagage vraiment utile pour pouvoir affronter le monde du travail. Et quand je dis bac au rabais, je dis que quand vous voyez que certains professeurs, des professeurs, disent qu'ils en ont marre un peu de cette espèce de bienveillance au niveau des notes parce que ça n'aide pas forcément aussi nos élèves pour demain. Vous voyez, c'est que même si quand je dis bac au rabais, c'est que le bac, moi je suis un peu de l'ancienne génération, et je dis que voilà, c'est, vous avez la pression, et vous savez, c'est ce qui fait le monde de travail. Si vous n'avez pas la pression, vous arrivez sur le monde du travail avec une certaine facilité, je doute fort que vous arrivez à quelque chose.
Est-ce que vous demandez par exemple au professeur de maintenir ses 90% de taux de réussite, donc en augmentant un peu les notes,
mais
en soyant...
Pas du tout, enfin, il n'y a pas de consigne d'objectif sur le résultat du baccalauréat.
Je pense qu'il n'y a pas de consigne, mais si vous voulez, le fait qu'il y a une espèce de forme de... Pour eux, ils estiment, les professeurs, je vous dis ce que pensent, je ne sais pas si c'est une majorité, mais ils pensent que oui, cette forme de bienveillance n'aide pas forcément nos élèves. Et ça aussi met un peu en lumière. Ça met aussi en lumière aussi un peu. On a la crise sanitaire, mais il y a aussi une crise aussi dans l'éducation nationale. Qui est bien réelle.
La réponse de Nathalie Limas.
En tout cas, je réponds là sur le sujet de la bienveillance et en particulier encore sur cette année. On avait quand même des lycéens qui n'étaient pas dans des conditions identiques pour étudier. On a eu des sujets majeurs, notamment numériques. Il a fallu équiper des élèves. Certains ont l'espace pour travailler l'équipement numérique, d'autres pas. Donc tout ça aussi, il a fallu le considérer. Certains ont été placés en demi-jauge tout de suite. D'autres lycées ne l'étaient pas parce que finalement, eh bien, la logistique du lycée permettait de continuer à accueillir tous les élèves. Et donc il y a eu des inégalités.
Il y a eu beaucoup d'inégalités.
Et ça, en effet, d'où en tout cas ce regard bienveillant des professeurs sur la notation.
Pour finir, Madame la Ministre, j'aimerais revenir... alors, on parle beaucoup en ce moment de la vaccination obligatoire des soignants. Un projet de loi est en préparation qui sera peut-être apparemment voté à la rentrée. Qu'en est-il des questions autour de la vaccination des enseignants? J'ai lu que Jean-Michel Blanquer écartait totalement l'idée d'une vaccination obligatoire pour les enseignants. C'est toujours le cas?
Alors, à l'heure où on se parle, et moi, ce que je peux vous dire des estimations que l'on a, c'est qu'on a environ 70% des professeurs qui sont vaccinés. Donc, s'il faut répondre sur obligation de se faire vacciner ou pas, moi, j'ai envie de vous dire que je leur fais confiance. Les professeurs sont responsables et je pense qu'ils vont le faire assez naturellement à la rentrée. Si, encore une fois, on voit que la pression sanitaire se maintient et là, on est tous devant nos écrans à regarder comment évolue, notamment le Delta... Ouais. Voilà, si c'est le cas, franchement, je ne suis pas inquiète. Je sais que les professeurs sont responsables. Ils l'ont montré encore une fois ces deux dernières années. On s'est adapté au protocole avec eux, etc. Et je pense qu'ils iront se faire vacciner. Bon.
Merci à vous, Nathalie Elimas. Merci. Merci, secrétaire d'État auprès de Jean-Michel Blanquer. Dans quelques instants, eh bien, on va commenter, analyser cette arrivée du Tour de France que vous avez suivi en direct. Il y a une petite heure maintenant, on va retrouver nos consultants. C'est des anciens coureurs. Un maillot jaune 84 pour Vincent Barthaud. Maillot jaune 84 et Pascal Chanteur qui nous rejoint dans quelques minutes. Merci à vous, à tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Les vraies voix sur Sud Radio à 18h21, Abdoulaye Kanté qui discute avec Françoise Degois.
Je m'informe sur les grades,
de la police. Voilà.
Parce que honnêtement, on parle des policiers, etc., mais c'est assez passionnant de voir comment est-ce que les policiers
évoluent. Quel est votre grade
Brigadier.
Brigadier, voilà.
Par contre, je voudrais juste faire peut-être un petit... J'en profite, le 9 juillet, il y a la journée nationale en hommage à la police. C'est-à-dire qu'à tous ces policiers qui sont tombés, à tous ces policiers du quotidien qui sont là pour vous, donc il y a une journée d'hommage pour la police. Donc
le 9 juillet.
J'ai lancé un hashtag ensemble avec la police.
Bon, c'est sûr, mais si ça tourne pas comme la manif de l'Assemblée, on tape sur la justice, ça m'ira très bien.
Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. On va commenter, analyser ce Tour de France et cette nouvelle étape que vous avez suivie il y a un petit peu plus d'une heure en direct sur Sud Radio, commentée par Vincent Barthaud, la fameuse étape du Mont Ventoux. On débriefe tout de suite.
Béarn Pyrénées Tourisme et Gîte de France 64 présentent
Sud Radio fait son Tour de France.
Allez, on accueille Vincent Barthaud qui est avec nous, Pascal Chanteur qu'on va retrouver dans quelques instants à Malocène, la 11e étape marquée par cette double ascension du Mont Ventoux et Van Aert vainqueur en solitaire de cette étape. Vincent.
Oui, magnifique heure. C'est un coureur qui est très complet, qui était tout à l'heure champion de Belgique contre la montre, il a gagné beaucoup de classiques, Strade Bianche, Milan-San Remo, Canvey Velgem, Landstad Gold Race. Il est arrivé cette année sur le Tour un petit peu diminué parce qu'il a été victime d'une opération d'appendicite. Mmh. Et là, il se retrouve, il a fini deuxième hier, il gagne aussi, deuxième hier au sprint. C'est un coureur complet. Moi, je vois, à mon avis, que c'est peut-être le coureur de demain sur le Tour de France.
Alors, quel est l'avis de Pascal Chanteur? La révélation Van Aert, Pascal?
Ben, la révélation, sur une étape comme aujourd'hui, avec deux montées vraiment très importantes comme celle du Mont Ventoux. Mais on le savait, hein, que c'était un des coureurs aujourd'hui fantastiques. Vous savez, on les appelle les quatre fantastiques. Hein, Van Aert, Van Epoel, Van Der Poel, et puis Julien qui en fait partie aussi. Donc oui, Van Aert est sans aucun doute l'une des valeurs montantes du cyclisme mondial aujourd'hui.
Philippe Bilger.
Pascal, on a avec Van Aert un Belge qui sait grimper. Est-ce que on peut le considérer comme un futur Eddy Merckx?
Bah écoutez, moi j'ai pas pour habitude d'opposer les générations ou de les comparer. Je pense que c'est d'abord avant tout un coureur de son temps et qui est capable de tout faire. Il a été champion du monde de cyclocross, il est capable de gagner des courses par étapes, des étapes, ce qui veut dire qu'il a une très très bonne récupération, et il est capable de gagner des grandes classiques, de très grandes classiques, qui fait de lui un coureur très intelligent.
Très complet.
Et voilà, un coureur intelligent, c'est un coureur qui gagne des classiques, parce que sur une course d'un jour, il faut véritablement compter ses coups de pédale. Et Van Aert fait partie de cette caste de coureurs qui sont capables de gagner des grandes courses comme celle-là, et qui plus est, en récupérant comme il sait le faire, fait de lui un des outsiders prochains et un des favoris d'un grand tour.
Alors Pogacar,
il a quel âge, Pascal ? Il a quel âge ?
24 ans.
Ah ouais.
Ouais, d'accord. Bah, il est jeune. Pogacar donc attaqué dans le dernier kilomètre, on l'a suivi avec vous, Vincent Barthaud, mais il conserve son maillot jaune. Vincent, vous êtes là, Vincent ?
Oui, je vous entends. Oui.
Pogacar donc conserve le maillot jaune. Ça fait plusieurs jours.
Il ne lâche pas son maillot. Mais on a pu croire aujourd'hui qu'il avait été victime d'une petite défaillance, mais moi j'ai l'impression qu'il joue plutôt un petit peu avec ses adversaires, et du moins il a su gérer la fin de cette ascension du Ventoux à la deuxième montée. Il a très bien géré, il est rentré dans les meubles, il a réussi à refaire la descente, il est revenu sur l'Australien, il n'y a pas eu de souci sur Vingegaard, et je crois que Pogacar est toujours très bien placé pour arriver en jaune à Paris, aucun problème.
Françoise,
virus ou pas, les amis, est-ce que vous sentez le même engouement, enfin qu'on connaît depuis toujours, pour cette grande boucle avec les gens vraiment massés, est-ce que vous sentez que ça revient véritablement et que ça n'a pas disparu en réalité ?
Bah écoutez, j'ai eu la chance d'être parmi les spectateurs dans ce fameux Mont Chauve. Je peux vous dire qu'il y avait une ferveur fantastique.
Super.
Les gens étaient bien présents, en sachant que ces mêmes personnes qui étaient dans le Mont Ventoux ont fait pratiquement 20 km à pied. C'est vous montrer tout l'amour qu'ils ont pour ce sport et pour les cyclistes.
Ah super, donc, c'est très rassurant.
Doute, tout le monde était présent, voilà.
Ouais. C'est très rassurant parce que c'était une grande interrogation pour moi. Est-ce que le Tour de France qu'on attendait fébrilement, moi je suis des Hautes-Pyrénées, alors on était tous là dans la boucle à Argelès-Gazost en attendant que la caravane nous lance des casquettes et tout, c'était dingue, c'était vraiment un rituel. Je voulais savoir si on était encore là-dedans, est-ce que le Corona n'avait pas un peu brisé tout ça?
En fait non, ça n'a pas changé. Ça,
c'est très rassurant, merci.
Les Français, le Tour de France, c'est toujours la même histoire d'amour. Abdoulaye Kanté, vous suivez le Tour de France?
Moi, je ne suivais pas, mais bon, je pense aussi que c'est un peu notre patrimoine.
Eh oui, bien sûr.
Savoir un peu si ce patrimoine, encore, il y a toujours cette même ferveur, c'est toujours cette même envie. Dès que l'été arrive, voilà, on voit l'étape, la pause, vraiment toutes ces émissions qui nous font aimer déjà à la fois le cyclisme et aussi notre beau pays, la France.
Pour terminer, tiens,
il a raison,
Abdoulaye.
Vous baladez, c'est un office du tourisme géant.
C'est vrai, c'est vrai. Tiens, il nous reste une petite minute, Pascal Chanteur, un petit mot sur l'étape de demain.
Bah écoutez, l'étape de demain partira de Saint-Paul-Trois-Châteaux pour arriver à Nîmes, 159 km 400. Une étape très accidentée où là encore, ça pourrait arriver au sprint, mais encore faudra-t-il que les équipes possédant des sprinteurs aient des forces en présence, c'est-à-dire des équipiers capables d'annihiler toute véracité des attaquants et à partir de là, peut-être un sprint, mais moi je pense que une échappée à long cours verra quand même le jour demain.
Eh ben on suivra ça avec vous et l'arrivée évidemment comme chaque jour à suivre en direct dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Merci à vous Vincent Barthaud et merci à Pascal Chanteur.
Sud Radio fait son tour de France
avec Béarn Pyrénées Tourisme et Gîtes de France 64.
On les aime beaucoup, nos consultants, les anciens coureurs Vincent Barthaud et Pascal Chanteur.
Ils sont vraiment excellents.
Vous avez raison. Faut-il interdire certains lieux non vaccinés ? C'est ce que fait l'Irlande, par exemple, le Danemark, bientôt la Grèce d'ailleurs. Le gouvernement y réfléchirait. Le pass sanitaire étendu, c'est comme ça qu'il s'appelle. Olivier Véran, par exemple, défend un tel pass. Faut-il interdire certains lieux non vaccinés ? On en débat dans quelques minutes. 0826-300-300.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
18h32 sur Sud Radio, place au grand débat des Vraies Voix, le grand débat autour de ce projet gouvernemental, le pass sanitaire étendu.
On n'a pas envie de débattre.
Ah bah écoutez, vous n'avez pas envie de débattre ?
Bah non.
Non ? Bon écoutez, bah restez quand même. Philippe Bilger, Abdoulaye Kanté est avec nous dans un instant. Notre invité qui va réagir sur le pass sanitaire étendu. Donc je vous l'explique, hein. C'est tout simple, réserver aux seuls vaccinés l'accès à certains commerces ou loisirs. C'est ce que fait certains pays, l'Irlande par exemple, Danemark, l'Autriche.
C'est ce que font, vous voulez dire.
C'est ce que font, pardon.
C'est vraiment la fin de la saison. Là,
Olivier Véran, le ministre de la Santé, lui, a justifié ce projet. Écoutez ce qu'il dit. En cas de nouvelles restrictions anti-Covid, dit le ministre, 20% de non-vaccinés ne pourraient pas contraindre les 80% de Français qui veulent l'être à ne pas accéder à des activités courantes qui leur ont tant manqué depuis un an.
Non,
la question est claire et on vous la pose. Vous allez en débattre avec nous dans un instant.
On ne va pas débattre, on va tous être d'accord.
Faut-il interdire certains lieux aux non-vaccinés ? Faut-il interdire certains lieux aux non-vaccinés ? 0826-300-300, vous votez sur Twitter et YouTube, vous dites non évidemment à 91%, c'est le grand débat.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle.
Ah bah oui, il est question de liberté, vacciné, non vacciné, est-ce que ce sera la même liberté ? Finalement, elle veut bien débattre. Françoise Degout, qui est avec nous.
Non, je sais, je plaisantais.
Philippe Bilger, Abdoulaye Kanté et notre invité, Bruno Mégarban, bonsoir.
Bonsoir.
Chef du service de réanimation de l'hôpital La Riboisière. Bonsoir à vous.
On l'aime, hein, Bruno Mégarban, mais là, merci. Je sens qu'on va s'énerver.
Alors, dites-nous tout sur le principe, quand même, Bruno Mégarban. C'est une sacrée discrimination pour les non-vaccinés. Ce projet qui est en train, qui est sur la table du gouvernement, c'est une option en tout cas, Bruno Mégarban.
Oui, tout à fait. On va dire que c'est une option que le gouvernement va choisir, pas dans l'immédiat, mais puisqu'il faut quand même encore laisser le temps à ceux qui veulent se faire vacciner de pouvoir le faire en toute liberté. Mais il est vrai que si en septembre l'épidémie progressait, il n'y a aucune raison de devoir mettre en place des mesures de restriction pour la totalité de la population, alors qu'en restreignant certains lieux de brassage aux seuls non vaccinés, on pourrait éviter un rebond hospitalier.
Donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, ce que vous dites, c'est que c'est pour l'intérêt général, Bruno Mégarban.
Mais bien sûr, c'est d'abord pour l'intérêt des personnes elles-mêmes non vaccinées, car si elles fréquentaient sans prendre de précautions les lieux de brassage où le virus pourrait circuler, elles se mettraient en danger d'être contaminées et donc de présenter éventuellement des formes graves de la maladie. Par ailleurs, évidemment, on protégerait les personnes les plus fragiles qui peut-être, même vaccinés, seraient quand même à risque de développer une maladie, car évidemment, ils ne pourraient pas répondre de façon optimale au vaccin.
Alors, Françoise, juste Bruno, après Philippe Bilger, qui je pense est d'accord avec Bruno Mégarban.
J'ai toujours apprécié votre pondération. Vous êtes un des rares professeurs à être garde à la mesure, mais là, franchement, c'est pas possible à entendre. Honnêtement, moi, je suis une vaccinée, hein, donc je suis très tranquille par rapport à ça. Honnêtement. Vous ne pouvez pas tenir ce discours déjà. Vous pouvez le faire. Faire porter le poids d'un éventuel reconfinement dont on sait qu'il n'aura pas lieu. Okay, on a bien vu les chiffres, le Delta, malgré les cris alarmistes. Le variant Delta, il n'y a pas de corrélation aujourd'hui. Par exemple, je regardais les chiffres de ce matin en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, entre le nombre d'infections et la pression sur les réanimations. Il n'y a pas de corrélation.
D'ailleurs, au Royaume-Uni, on a enlevé le masque. Hein.
On enlève tout. Et d'ailleurs, voilà. Boris Johnson a dit, écoute, après tout, c'est son mot, les non-vaccinés, démerdez-vous, voilà, c'est comme ça, j'ouvre tout. On ne peut pas fonctionner comme ça. Les gens, je ne prends pas les anti-vax, les gens non-vaccinés ont le droit d'avoir des doutes. Vous avez vu, Bruno, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, que maintenant commence à fleurir des papiers sur le variant Epsilon et sur le variant Lambda, dont on est en train de nous dire que probablement ils résistent, eux, particulièrement aux vaccins. Nous ne sommes pas dans le cas de la rougeole ou du tétanos, où le vaccin est obligatoire parce qu'il tue obligatoirement. Là, la plupart des gens qui ne sont pas vaccinés sont des gens qui ont entre 30 et 40 ans. Les gens fragiles le sont. Est-ce qu'on pourrait foutre la paix à ceux qui, en leur âme et conscience pour le moment, préfèrent attendre ?
Il y a une petite partie des plus de 55 ans qui n'est pas vaccinée non plus. Tiens, la réponse de Bruno Mégarban. La réponse de Bruno Mégarban, juste après Philippe Bilger et Abdoulaye Kanté. Bruno Mégarban.
J'allais dire... On va dire la grande différence avec le Royaume-Uni, c'est que 95% des personnes âgées ou à risque est vaccinée. Et donc effectivement, aujourd'hui, il est possible, avec ce taux de vaccination, de dissocier le nombre de contaminations qui augmente, même quasiment de façon exponentielle, du nombre de patients. Et donc le choix stratégique de maintenir le pays ouvert sans aucune restriction par le Premier ministre britannique, on va dire, est possible, même si malgré tout il prend un certain risque, car 5% des personnes à risque non vaccinées pourraient à terme, alors pas maintenant parce que le virus ne circule pas encore de façon importante, mais pourraient à terme saturer et poser un problème d'augmentation de la mortalité. Il a préparé, semble-t-il, ses compatriotes à avoir une augmentation du nombre de décès, quitte à maintenir cette liberté. Je crois qu'en France, la question est différente. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous ne sommes pas vaccinés de la même façon. Au moins 20% de la population à risque n'est toujours pas vaccinée. Mmh. Et là, si le virus circulait, il est certain qu'il y aurait un pic épidémique.
Avec... Non mais attendez Bruno, soyons précis. Pardon Philippe Bilger. Pic épidémique avec saturation des réas. Vous comprenez bien que tout le problème...
C'est la saturation des réas, c'est vrai.
Et qu'est-ce que nous avons fait ? Et vous êtes un super patron d'hôpital, vous êtes un hospitalier, mais vous le savez très bien, je ne vous couvre pas de fleurs parce qu'on vous a testé pendant un an et demi, donc on connaît votre humanité, Bruno. La question est, qu'est-ce qui a été fait, puisque c'est ça le curseur, qu'est-ce qui a été fait depuis un an et demi pour remédier à ce problème de saturation de réa? La réalité, c'est que rien n'a été fait.
On n'a toujours pas de lit.
Voilà. Donc, on ne peut pas continuer éternellement à faire peser le poids de quelque chose.
S'il vous plaît, je suis tout à fait d'accord avec vous. Rien n'a été fait pour les réanimations. D'ailleurs même, nous sommes toujours contraints de discuter et de défendre nos lits, car nous sommes menacés encore, même pas d'augmentation, mais de diminution des lits. D'ailleurs, à la rentrée...
Ça n'a rien changé.
C'est un problème extrêmement important. 40% environ des paramédicaux des services de réanimation ont donné leur intention de quitter leur poste. Et donc, cette crise sociale risquerait en plus d'aggraver évidemment la situation à l'hôpital.
Le gouvernement n'a tiré aucune leçon de cette crise du Covid. Philippe Bilger.
Bruno Mégarban, une double interrogation, si vous le permettez, sanitaire et d'une certaine manière philosophique, sans faire dans le pompeux. Au fond, j'ai eu tendance à considérer d'abord que, évidemment, dans la mesure où le vaccin est majoritairement considéré comme un bienfait, que, au fond, une forme de totalitarisme sanitaire était justifiable. Mais après avoir dit cela, je m'interroge notamment au regard de ma seconde question. Au fond, est-ce qu'on a le droit d'imposer un vaccin à partir du moment où... sur un plateau de la balance, il peut y avoir des inquiétudes que, pour ma part, je peux juger absurdes, mais qui ont le droit d'exister tout de même. Donc, c'est ce que j'aimerais, c'est que vous nous éclairiez sur ce mélange entre nécessité du vaccin et liberté de chacun. Lorsque, en toute bonne foi, on considère qu'il est encore dangereux de se faire vacciner, ce que moi-même, je ne juge pas pertinent.
Bruno Mégarban.
Alors, vous avez raison. Alors, tout d'abord, on va dire, la liberté restera. Moi, je ne suis pas favorable à l'obligation vaccinale de la population. La liberté restera, mais c'est vrai qu'il y aura des contraintes et les personnes non vaccinées se verront, en raison d'un pass sanitaire plus largement demandé, avoir des difficultés à vivre de la même façon que les vaccinés.
Donc, c'est de l'hypocrisie, Bruno. C'est de l'hypocrisie.
Le but, en fait, est d'inciter à la vaccination. C'est pas à nouveau. Le but est d'encourager la vaccination. Maintenant, si au bout d'un certain temps de telles mesures, le taux de vaccination était jugé comme suffisant car permettant d'atteindre l'immunité collective, et ça a été le cas en Israël, permettant par la suite de protéger les non-vaccinés en raison de la masse de personnes vaccinées, eh bien très bien. Israël a pu atteindre une vaccination aussi importante parce que pendant 3 mois, elle a imposé le pass vaccinal à toutes les activités de loisirs et de culture. Alors, on va dire dans la balance, nous avons tout d'abord un vaccin sûr, efficace, avec des effets secondaires extrêmement mineurs, une surveillance de pharmacovigilance extrêmement bien faite, 3 milliards d'individus vaccinés sur la planète, et une protection désormais garantie contre la quasi-totalité des variants. De l'autre côté, on va dire, certes, c'est un nouveau vaccin, mais il n'y a aucune raison rationnelle de penser qu'il pourrait y avoir des effets secondaires de type maladie auto-immune à moyen ou long terme. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce vaccin, notamment celui à base d'ARN messager, ne contient que de l'ARN dans du gras. Donc je ne vois pas pourquoi, si vous voulez administrer ce type de substance, sachant que l'ARN messager est détruit de façon extrêmement rapide, et ce sont des produits naturels. Lorsque nous vivons sur la Terre, nous rencontrons des milliers d'agents pathogènes et de micro-organismes tous les jours avec leurs ARN, et nous fabriquons une immunité contre ces agents. Donc c'est un processus le plus naturel possible. Il n'y a pas d'immunostimulant dans ces produits. Il n'y a pas de risque, a priori, de développer des complications à moyen ou long terme. Et ça, ça doit être balancé, bien sûr, par rapport à un risque immédiat de contracter une forme grave de la Covid-19, y compris chez les jeunes, ou de développer un Covid long qui est quand même extrêmement handicapant. Il faut savoir que plus la population sera vaccinée, plus les personnes classiquement à risque seront vaccinées, et plus les personnes qui vont venir en réanimation seront jeunes. D'ailleurs, aujourd'hui, les cas de contamination sont essentiellement des personnes plus jeunes et non vaccinées.
Faut-il interdire certains commerces, certains loisirs aux non vaccinés? 0826 300 300, direction Marseille. Bonsoir Serge.
Bonsoir.
Bonsoir à vous Serge. Comment allez-vous? Quel temps fait-il à Marseille?
Ah, ça c'est... Quel beau temps fait-il à Marseille?
Alors, c'est dans la question. Ben oui. On vous écoute Serge.
Voilà, moi je voudrais d'abord ouvrir une toute petite, une micro-parenthèse pour dire que je ne pense pas, et votre invité, je ne pense pas qu'il va me contredire, je ne pense pas que les services d'urgence aient attendu le Covid pour être submergés, fin de la parenthèse.
Oui, ça c'est un problème qui date depuis des années.
Ensuite, il y a un argument que je mets au défi quiconque de contrer. La seule phase 3 prend normalement plusieurs années. Comment on peut en arriver là où on est?
Ouais. Alors, Bruno Mégard,
je vous mets au défi.
Alors.
Et je vous renvoie tous au maître de conférence en génétique moléculaire, Christian Vélo, qui explique très bien tout ça.
Alors, on va poser la question à Bruno Mégarban. C'est vrai, Bruno Mégarban, que beaucoup de Français se posent la question, comment se fait-il que pour faire des vaccins, il faut plusieurs années? Et là, en un an, hop, au bout d'un an, on a fait, enfin, pas tous les tests encore, on met à disposition des vaccins contre le Covid. Comment est-ce possible?
Alors, j'allais dire, nous avons une chance énorme d'avoir un vaccin efficace et très bien toléré en aussi peu de temps. Imaginez ce que aurait été la situation de l'humanité si de tels vaccins n'étaient pas apparus. Alors, contrairement à ce qu'a dit votre auditeur, les phases 3 sont des essais thérapeutiques de courte durée. D'ailleurs, l'ensemble des vaccins qui sont mis sur le marché ont parfaitement passé ces phases, qui ont été terminées, qui ont permis d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché. La phase 3 précède l'obtention de l'AMM. En fait, votre auditeur confond avec la phase 4, qui est une phase de pharmacovigilance qui dure tout au long de la vie de vente d'un produit. D'ailleurs, la phase de pharmacovigilance existe pour l'ensemble des molécules, y compris le paracétamol, l'aspirine, qui sont utilisées depuis des centaines d'années. Il y a une phase de pharmacovigilance. Celle-ci ne s'arrête jamais, ne s'arrêtera que le jour où le médicament est retiré du marché. Par contre, les phases 3 sont des phases très limitées qui permettent d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Elles ont été parfaitement remplies, extrêmement sérieusement faites. D'ailleurs, pour toute publié dans des revues scientifiques de très haut niveau, il n'y a aucune contestation possible sur le domaine.
Merci pour l'explication, Bruno Mégarban, c'est très clair. Abdoulaye Kanté.
Moi, juste pour revenir à ce que disait Professeur Mégarban, vous avez raison, c'est que si on doit arriver à l'immunité collective, il faut qu'on soit massivement vacciné. Et ces personnes qui sont justement porteurs de ce virus de forme, on va dire, grave, qui peuvent diffuser ce virus, on va dire, de manière grave, ce sont plutôt cette tranche de jeunes 30-40
ans.
Donc, effectivement, si on arrive n'arrive pas à cette vaccination massive. Oui, mais la liberté, c'est vrai.
Non,
la liberté.
Non, on va pas recommencer cours sur la liberté.
Non, mais ça, je suis d'accord. Mais moi, justement, la liberté, à un moment donné, peut-être que quand on voit l'exemple d'Israël, qui eux ont vacciné massivement,
et qu'ils sont 40% de vaccinés.
Oui, mais aujourd'hui, c'est que moi, j'ai envie de penser aussi à Pasteur, c'est que comme on le disait hors antenne, il a 13 doses quand même pour essayer de combattre la rage aujourd'hui.
Abdoulaye, j'entends tout ce qu'on veut, on peut recommencer l'histoire sur la variole, comment est-ce qu'on a pris la décision de vacciner le roi avec un virus qui n'était pas désactivé, vous connaissez ça par cœur Bruno, on va pas recommencer cette question-là. Ouais. Je dis juste qu'il faut peut-être mettre un pied sur le frein, et je comprends que des gens qui ne sont pas des antivax, je termine, on n'en sait rien, tu n'en sais rien.
Le principe de précaution dans ce pays a toujours fait du mal l'immobilisme français.
Est-ce que je peux finir?
Allez,
je sens de bois.
Merci.
Je termine sur cette idée-là. Je n'ai aucun état d'âme avec la vaccination. J'entends que des gens puissent avoir, et pas des antivax complotistes, des gens lambda qui ont des états d'âme sur la vaccination parce qu'ils disent tout va trop vite, parce que maintenant, c'est le variant Delta, après c'est le Psylone qui arrive derrière, et après c'est le lambda, et ça veut dire qu'on va donc être tous obligés de se vacciner pour un virus qui fait pas plus de morts, ou plus ou moins de morts que la grippe, c'est pas pareil que le tétanos, c'est pas pareil que la rage qui est mortelle à tout coup, c'est pas pareil que la variole qui tuait. Voilà, ils peuvent se poser des questions, mais les gens ont le droit.
L'immunité, ils ont le droit, mais l'immunité collective...
Tu n'y arriveras jamais, l'immunité, c'est une illusion.
Bon, l'immunité collective n'arrivera que si on sera vacciné massivement.
C'est une illusion, l'immunité collective. Les États-Unis, t'as 20% de gens qui ne se feront jamais vacciner. Biden le sait, constitutionnellement, il peut pas les obliger. C'est exactement ce que dit Boris Johnson. Ben voilà, maintenant, démerdez-vous, vivez avec, mais on arrête les interdictions.
Allez, s'il vous plaît, c'est la fin de ce grand débat. J'aimerais remercier Bruno Megarban, chef du service.
Excusez-nous, Bruno.
De réanimation de l'hôpital Larry Boisière, extrêmement pédagogue et très clair. Les explications de Bruno Megarban. Merci à vous.
Il donnerait presque envie de se faire vacciner.
C'est vrai.
Si c'était pas déjà fait.
Le grand débat à retrouver et à réécouter en podcast sur notre site sudradio.fr, en vidéo sur notre chaîne YouTube. Dans un instant, eh bien, place à l'Euro de football. La victoire de l'Italie hier et cette deuxième demi-finale Angleterre-Danemark ce soir. On en parle avec notre journaliste sportif Alexandre Priam. Dans un instant, à tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Avec Françoise Degois ce soir,
on
Philippe
continue
Bilger.
Sur les vaccins.
Ben oui.
En fait, on pense la même chose, hein, mais on ferait pas pareil.
Oui, c'est toute une question de déclaration, hein, voilà.
C'est ça.
Ça va, Abdoulaye, vous allez bien? Stéphane Ryan nous a rejoint, Philippe Bilger est avec nous, place à l'Euro de football et la victoire de l'Italie.
Les vraies voix Sud Radio font leur Euro.
Avec Bagel Corner, ouvrez votre restaurant et révélez votre talent. We are the people
we've been waiting. Allez, Alexandre Priam, notre journaliste sportif, est avec nous évidemment. Esteban, on va revenir sur cette belle victoire au tir au but de l'Italie hier.
Belle victoire, non. Je vais dire.
Victoire, oui, ils ont. Victoire, oui.
Je vois le regard de François. Ouais,
n'ayez pas peur, n'ayez pas peur.
Je vais poser une question à Alex. Salut Alex.
Salut.
Essaye d'être honnête, s'il te plaît. Est-ce que c'est la meilleure équipe qui a gagné hier pour toi?
Non.
Non.
Sur le match, sur le match, l'Espagne semblait mériter, mais sur la cohérence de tout le tournoi, c'est l'Italie qui méritait de passer.
C'est José Mourinho.
Sur la construction et la préparation du tournoi, en tout cas, c'est l'Italie.
Et c'est José Mourinho qui avait cette magnifique phrase, hein, c'est la plus belle équipe ce soir qui a perdu. Voilà, l'Aurora, elle a toujours joué comme là. Enfin, j'en sais rien. C'est vrai que les Italiens ont été mangés dans tous les secteurs.
Ce que je pense, c'est que l'Italie.
Alexandre.
Pardon.
Allez-y Philippe.
Pardon.
Alex,
est-ce que tu acceptes l'idée que l'Italie a eu moins de talent que d'habitude hier soir et que l'Espagne a mieux joué, mais qu'en définitive, c'est tout de même l'équipe, par certains côtés, la plus séduisante qui a gagné?
Moi, franchement, voilà, c'est pas une surprise. Depuis le début du tournoi, je vois cette équipe italienne très séduisante. Moi, hier, sincèrement, j'ai vu le meilleur match de l'Espagne depuis très longtemps. Plutôt séduit par ce qu'a produit l'Espagne pendant 90 minutes. La prolongation a été un peu au rabais pour tout le monde, mais pour moi, l'Espagne a produit un très beau jeu, plus beau que l'Italie, parce que l'Italie s'est retrouvée étouffée. Ce que je peux noter surtout, c'est que l'Espagne, il y a toujours le même problème. Il manque il manque un
attaquant
pour finir. Quelqu'un pour finir ces actions-là, parce que la construction du jeu est magnifique, mais derrière, ouais, c'est la personne pour marquer.
Alex, justement, je pourrais peut-être en rajouter concernant l'appréciation de l'Espagne, qui était pour moi très très bonne, notamment quand je vois l'appréciation de Pedri, j'avais l'impression de voir quelqu'un de meilleur qu'Iniesta. Quelqu'un qui était vraiment avec une grinta, avec un toucher qui pour moi m'a impressionné. Et encore, comme tu l'as dit, le problème de l'Espagne, ça a toujours été ce problème, c'est le manque d'attaquants. Nous n'avons pas Morientes, il n'y a pas un Torres devant qui peut finir. Quand on voit Morata qui pour moi était un bon attaquant, mais mon Dieu, quand il était devant le pénalty, j'étais sûr et certain qu'il avait coupé, qu'il
allait
rater.
Il y a une demi-finale, Alexandre Priam, il nous reste une petite minute ce soir, c'est la deuxième demi-finale. Angleterre-Danemark. Alors sur le papier, Alexandre, qui peut l'emporter ce soir?
Sur le papier, c'est évidemment l'Angleterre, parce que les joueurs sont beaucoup plus référencés et ainsi de suite. Malgré tout, il y a un certain charme à imaginer le Danemark aller en finale.
Parce que
Christian Eriksen, parce que 1992, quand il...
Schmeichel, père et fils.
Il y a une sorte de... Ouais, pour la beauté de ce sport, il y a un certain truc autour du Danemark, mais ça se jouera à Wembley. Ce sera pour moi quelque chose de très important. Ça peut être dans les deux sens. Ça peut donner encore plus des ailes à cette équipe anglaise, comme l'a pétrifié. Et ça l'a souvent pétrifié dans l'histoire. Donc attention quand même.
Oui, et je dis pas de bêtises en sachant que les Danois ont déjà battu les Anglais à Wembley il y a pas longtemps, 1-0. Je pense que les Danois ont des solides. Personnellement, je joue le Danemark au tir au but à la fin. Le Danemark finit en finale parce qu'il y a quand même aussi des personnalités hors normes. Dolberg est magnifique, la défense est magnifique, Kasper Schmeichel est magnifique, je sais pas.
Attention aux Anglais.
Il y a une histoire commune quand même.
Oui, il y a une histoire commune.
Angleterre-Danemark, donc c'est la deuxième demi-finale ce soir. Tiens, si vous voulez parier, vous pouvez suivre les paris de François Degois.
Le Danemark au tir au but, elle a gagné hier.
Moi j'ai mis 2 à Danemark.
Angleterre-Danemark.
Vous avez mis le Danemark, Alexandre?
Ouais, j'ai mis 2 à Danemark.
Très bien. Allez, tout le monde qui soutient le Danemark dans Les Vraies Voix. Merci à vous. Les Vraies Voix qui font bouger la France dans quelques instants, les voix des entrepreneurs. Restez avec nous. Sophie Cluzel sera avec nous dans quelques minutes avec Denis Jacquet. Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge du handicap. Je vais y arriver. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour les voix des entrepreneurs. À tout de suite.